parcours des hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Campus, basé sur le campus de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Nous sommes dans la numéro 7 de Terre des Hommes. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'antenne et nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec mon invité qui s'appelle...
Kadi Diabaté.
Et qui nous vient d'Abidjan. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Terre des Hommes.
Alors la Côte d'Ivoire, chers amis auditeurs, il faut que vous sachiez que c'est un pays qui est cher à mon cœur. J'y ai vécu 2 ans, à Boaké, en pleine brousse. C'est Jean-Robin en micro, j'ai oublié de me présenter, mais Kadi s'est présenté. Et ma fille aînée, elle est là-bas d'ailleurs, à Abidjan. Alors la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays fantastique. On peut faire beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de projets, les Ivoiriens sont sympas, et le pays est magnifique, il y a plein de potentiel. Et qui mieux qu'une Ivoirienne pour en parler aujourd'hui? Donc je vais laisser tout de suite la parole à Kadi Diabaté, que j'ai rencontré il y a bientôt 6 ans ici et qui va nous raconter son parcours. Alors Kadi, présente-nous en quelques lignes la Côte d'Ivoire, placée donc, je le rappelle, ouest de l'Afrique, francophone. Tout le monde parle français, même s'il y a 70 langues ou 75 langues différentes. Et la grosse ville, c'est Abidjan. La capitale politique, c'est Yamoussoukro, voilà, qui est au centre du pays. Et qu'est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots de ce pays magnifique que nous aimons tous?
D'accord, je vous remercie. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui compte près de 25 millions d'habitants et leader en fait en matière, disons, de
cacao,
café et tout sur le marché international. Moi, en fait, pour parler précisément de mon cursus, je dirais que je suis arrivée en France en 2014 après avoir fait un cursus au Maroc, un bachelor en affaires internationales. J'avais pour objectif de poursuivre en master en optant pour la France, parce que la France, c'est un pays qui, comme M. Robin l'a dit, aussi cher à mon cœur et tout.
Les Ivoiriens et les Français sont des grands potes.
Exactement.
Des grands amis.
Et la France aussi attire aussi de par sa culture et de par l'offre de formation qu'elle propose aux étudiants. Donc, du coup, mon choix s'est immédiatement porté sur la France et ma procédure s'est déroulée très facilement avec beaucoup de concentration.
Mais alors, pourquoi tu es passé par le Maroc? Pourquoi tu n'as pas fait Abidjan-Paris direct?
Je suis passé par le Maroc parce que, après avoir obtenu mon bac, j'avais pour objectif de tenter une expérience à l'extérieur. Et le Maroc, c'est un pays où il n'y a pas de difficultés pour l'obtention du visa. Et directement, mon choix s'est porté sur le Maroc.
Et comment ta famille a vécu ça? Parce que quand même, la Côte d'Ivoire, c'est un pays moderne, il y a des grandes universités, comme l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs que c'est l'ancien évêque de Angers, Mgr Orchan, qui est le cofondateur d'une des plus grosses universités ivoiriennes, qui s'appelle l'UCAO, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Et alors, pourquoi tu n'es pas resté dans la très très grosse université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan? Félix Houphouët-Boigny, c'est l'ancien président, père de l'indépendance. Pourquoi tu n'es pas resté dans une grosse université ivoirienne? Parce qu'il y en a en Côte d'Ivoire.
Bah, en fait, le choix pour la France, c'est basé sur une raison principale, c'est que les diplômes, en fait, délivrés par les universités françaises sont reconnus internationalement. Du coup, j'ai préféré faire le choix de la France pour avoir un diplôme internationalement reconnu et bénéficier d'une formation de qualité. Bien vrai que certaines universités en Côte d'Ivoire proposent des formations, mais nous sommes souvent confrontés à des grèves, à plusieurs difficultés qui entravent le bon déroulement de la scolarité.
Donc tu nous dis que finalement, rester étudier à un parcours de licence et de master en Côte d'Ivoire, c'est pas si simple encore.
Ce n'est pas si simple.
À un moment donné, avoir une expérience internationale t'attirait.
Exactement.
C'était la première fois que tu venais en France?
C'était la première fois.
Quelles ont été tes premières remarques, tes premières réflexions? Qu'est-ce qui t'a étonné en arrivant sur le pays des bleufoués, là, des toubabs, comme on dit? Alors pour nos auditeurs, bleufoué en baoulé, ça veut dire le blanc. Le bleufoué, c'est la langue parlée par les baoulés, c'est l'ethnie la principale au milieu du centre du pays, autour de Boaké. Mais il y a aussi les dioulas, eux ils disent les toubabs, les toubabous. Alors toubabous. Alors donc, Kadi, quand tu es arrivé au pays des toubabous, qu'est-ce que tu as remarqué voilà, qui t'a un peu impressionné ou qui t'a choqué peut-être?
Quand je suis arrivée la première fois, mon premier réflexe c'était de voir la Tour Eiffel.
Ah, tu voulais voir la Tour Eiffel?
La Tour Eiffel, et j'ai été impressionnée par, disons, par la beauté des infrastructures et tout. Et c'est toi, c'est ma première fois de voir autant de blanc, en fait. Donc, du coup, autant de blanc autour, mais l'intégration s'est très, très bien déroulée, surtout vu que j'avais été acceptée par l'UCO d'Angers. Et j'ai été très, aux premières heures de mon arrivée à Angers, j'ai tout de suite été intégrée. Pour le service de logement de l'UCO m'a assistée pour la recherche du logement. J'ai été accueillie par une famille d'accueil et mon intégration, j'en garde un très bon souvenir.
Alors je reviens sur ce qu'elle vient de dire, chers amis les auditeurs, qu'Adi vient de dire, je n'avais jamais vu autant de blancs. Moi, il faut que vous sachiez que quand nous sommes arrivés avec mon épouse en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu autant de noirs. Et je me rappelle même que dans certains villages de brousse, parce qu'on travaillait sur un projet agricole, donc on partait beaucoup en brousse, sur les pistes rouges, là, de la térite, tout, avec plein de poussière, quand on arrivait dans certains villages, les enfants couraient parce qu'ils avaient peur. Certains enfants n'avaient jamais vu de blanc. Et alors, je peux vous dire que ça fait une très drôle d'impression. Donc, je comprends tout à fait que Kadi, arrivant au pays des Toubabous, des Bluffouets, voyant autant de blancs, puisse se dire « Ah oui, c'est pas tout à fait comme on m'avait dit, je comprends. » C'est quand même un choc culturel.
C'est quand même un choc culturel. C'est quand même un choc culturel. Mais bon, on s'adapte. Mm-hmm. Au fil du temps, on s'adapte.
Et le temps, la météo ?
La météo.
Ton premier hiver en France ?
Très, très, très difficile. Parce que j'avais jamais été confrontée à l'hiver, en fait. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on avait l'habitude d'utiliser peut-être la climatisation et tout. Mais bon, l'hiver, j'avais jamais été confrontée. Donc, du coup, ça a été très difficile. Mais après, je me suis adaptée.
Quand les étudiants arrivent, ils sont quand même... les premiers hivers sont difficiles.
Très difficiles. Et je me souviens que la première fois que la neige est tombée à Angers, j'étais en plein cours. Durant mon année d'MBA et disons c'était waouh, c'était ma première fois en fait de voir la neige.
Fois dans la journée, on va utiliser les cache-nez, mettre une distance entre nous. On va te barrer la route, on va te barrer la route, on va te barrer la route. Tu ne pourras même pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. L'humanité effrayée, le monde entier perturbé. Nous avons toujours gagné nos combats dans le passé. On va te barrer la route. On va te barrer la route, on va te pousser dehors et tu n'auras pas le temps de t'installer. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi ici. Djoube kankele Angan djija kagen Angan teko safinala Kanunanda dogo Banakanadu Angan teko safinala Kanunanda dogo Nambe barola Angan yoro janya Banakana bo do fe, katadu do fe. ko safena la bana kanadu kanuna dadu kanuna dadu kanuna dadu.
Kadi, tu es venu en France pour faire un MBA.
Oui.
Et ben, quelle était la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ma première année d'MBA s'est achevée par un succès vu que j'ai validé mes deux semestres à peu près de 14 de moyenne. Et heureusement que dès que j'ai terminé ma première année d'MBA, le service de recrutement de l'UCO venait à peine de se mettre en place et j'ai eu, disons, l'opportunité de ma vie de découvrir, de faire la connaissance de M. Robin qui était le directeur du recrutement international, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui était à la recherche de personnes qui pourraient en fait représenter la CATO dans plusieurs pays d'Afrique, des représentants de la CATO. Et immédiatement, l'offre m'a paru, disons c'était l'offre de ma vie, vu que l'international c'est un domaine qui me passionne. Et immédiatement, j'ai commencé avec, disons, le recrutement international. Et c'est un domaine dans lequel je me sens bien, qui me passionne énormément. Et disons que je me dis que c'est mon plan de carrière présentement.
Tu as ouvert une petite entreprise.
Une entreprise, j'ai un statut d'auto-entrepreneur
en France. Et tu vas en Côte d'Ivoire régulièrement. D'ailleurs, tu pars bientôt.
Bientôt. Et j'évolue dans un contexte légal en France, vu que j'ai le statut d'auto-entrepreneur et je représente la CATO en Côte d'Ivoire, au Gabon.
C'est formidable comme entreprise.
C'est formidable.
Et donc, tu rencontres les étudiants?
Je rencontre les étudiants, je fais la promotion des formations que dispense l'UCO. J'essaie en fait de les accompagner durant la procédure Campus France, d'être aussi présente durant la procédure Campus France, en amont et en aval de cette procédure.
Et comment ont réagi les membres de ta famille en sachant que tu partais pour faire des études et que maintenant tu reviens avec un job en fait?
En fait, mon père, en fait, il est dans le domaine de l'éducation, il a été drain et tout, donc du coup, il est très heureux pour moi, il m'assiste, il me donne des conseils concernant, ce que je fais présentement et ils sont très, très, très fiers de moi.
Si on parle de l'Afrique avant de poursuivre un petit peu, on sait qu'il y a des millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. On parle de plus de 5 millions de bacheliers qui vont chercher à quitter l'Afrique dans les 15 ans à venir. Et l'emploi est quand même pas si facile en Afrique actuellement.
Non.
Afrique francophone de l'Ouest. Quel est ton avis à toi? Comment tu verrais l'avenir de la jeunesse africaine? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire, que les pays africains doivent faire? Comment est-ce qu'on doit travailler avec l'Europe? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Je pense que nos gouvernements devraient créer des emplois, c'est-à-dire faciliter l'insertion des jeunes, surtout des jeunes qui viennent à l'étranger, leur donner l'envie de rentrer. Et non pas de rentrer pour être des personnes qui seront là à chercher des emplois, des stages. Ils doivent créer des emplois pour faciliter le retour des étudiants.
Toi, ton idée, c'est de dire, quand vous rentrez au pays, les amis, ne cherchez pas de l'emploi, mais créez de l'emploi.
Créez des emplois.
Est-ce qu'il y a des opportunités en Afrique aujourd'hui?
Il y a des opportunités. C'est vrai que je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé des années de crise post-électorale, mais la situation se stabilise et il y a beaucoup, le gouvernement actuel est favorable, disons, à l'entrepreneuriat des jeunes surtout, et le contexte sociopolitique est stable et encourage les jeunes à entreprendre. Il y a même des fonds d'investissement qui sont mis à disposition des jeunes et pour favoriser le retour de ces jeunes diplômés.
On se rappelle tous la presque guerre civile que vous avez vécue il y a quelques années. On était tous tellement tristes parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, nous les Français, on a une longue histoire avec vous. Où vous en êtes maintenant? Le pays, est-ce que maintenant, si un opposant se présente, les choses sont calmes, on peut discuter? Quel est ton sentiment? Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour affronter les grandes donnes de la géopolitique mondiale moderne? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kadi?
Oui, la Côte d'Ivoire est prête. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles, mais présentement, la Côte d'Ivoire est prête. Là, dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles en 2020, et la Côte d'Ivoire est prête à affronter en fait les défis.
Et tu l'environnement sens que ça va être paisible maintenant?
Paisible, l'environnement est paisible, favorable et encourageant.
Et les jeunes s'engagent sans passion qui les pousserait à être dans la rue, excuse-moi l'expression, avec une machette à la main?
Oui, les jeunes s'engagent. C'est vrai que les jeunes ont compris que, disons, la violence ne résout rien.
C'est ça.
La violence ne résout rien et ils sont disposés à évoluer dans un contexte de paix et de stabilité.
Et toi, Agadi, quelle part tu veux apporter au développement de ton pays? Qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays aujourd'hui? Tu vas souvent au pays, qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays aujourd'hui?
Pour mon pays, vu que présentement j'évolue dans le domaine, disons, de l'éducation de griffe, pour mon pays, ma pierre en fait serait de permettre aux jeunes ivoiriens de venir, surtout en France, pour bénéficier d'une formation de qualité dans un environnement qui favorise en fait une réussite et de rentrer surtout après pour développer la Côte d'Ivoire.
Donc dans leur cursus universitaire, tu les stimules, tu les encourages à faire une partie en Europe et en France et revenir au pays pour s'engager. Eh bien, c'est un sacré beau challenge. Hein,
Et je prévois de mettre en place une structure représentative de Move to Learn, qui est ma structure, mon auto-entreprise, une structure représentative en Côte d'Ivoire et qui sera spécialisée dans l'accompagnement des jeunes et qui fera du bon boulot en Côte d'Ivoire.
Move to Learn, pour les auditeurs, ça veut dire bouge pour apprendre. Bouge pour apprendre, qui est le nom de ta structure. Donc voilà, écoute Kadi, on te remercie beaucoup d'être venu au micro de Terre des Hommes sur le plateau de Radio Campus. Ça fut un plaisir de t'accueillir. Bon voyage en Côte d'Ivoire.
Merci.
Et je dis bon voyage avec toi, parce qu'en fait, je pars avec toi bientôt. On va passer 15 jours ensemble là-bas pour faire le tour des écoles. Et chers amis auditeurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Terre des Hommes. Et cette fois-ci, nous accueillerons Claude Bafoifoi, qui est avocat et le responsable de la République démocratique du Congo à Kinshasa et qui lui aussi a beaucoup de choses à nous dire. Ciao, ciao,
ciao.
Au revoir les gars.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.